Alors je vais bouger parce que je pense que j'aurai besoin de voir un petit peu l'écran. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Je me suis régalé pendant la louange. J'aurai plein de choses à dire, mais je ne vais pas le dire. D'abord parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Enfin, je ne veux pas prendre ce temps-là. Et puis surtout parce que j'ai trop d'émotions pour le partager. Mais... Amen. Donc certains me connaissent comme... plus je suis un peu enrhumé. Certains me connaissent comme étant le père de Mathieu. D'autres savent un peu plus sur moi. J'ai été pendant près de 20 ans le pasteur principal de l'Assemblée chrétienne de Marguerite. Et puis il y a 4 ans, j'ai laissé le leadership de l'Église à une équipe de plus jeunes anciens qui sont dans la petite quarantaine. L'idée pour moi de quitter ce leadership de l'Église, c'était d'abord de ne pas m'accrocher au leadership. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de devoir petit à petit pousser dehors un pasteur de 80 ans ou de je ne sais pas quel âge. Donc ça, je ne voulais surtout pas ça. Et puis, donc ça, c'était la première idée, de passer le flambeau. Et puis, deuxièmement, l'idée, c'était de répondre à l'appel de Dieu pour de nouvelles œuvres auxquelles je me sentais appelé. Et c'est dans cette dynamique de transition qu'on a créé l'école chrétienne à Marguerite, une école maternelle et élémentaire comme vous avez ici, et qu'elle fonctionne maintenant depuis 6 ans, cette école. L'autre domaine dans lequel le Seigneur m'a appelé à m'investir, c'est celui des relations avec le peuple juif. Donc c'est particulier, c'est pas un appel pour tout le monde, mais c'est un appel que j'ai senti et pour lequel j'ai des choses à partager. C'est un domaine très riche, qui va des relations directes et amicales avec la synagogue de Nîmes, avec laquelle on a développé une amitié très proche et des fonctionnements très intéressants. Ça va jusqu'à la création, il y a 3 ans, aux côtés d'Étienne Lhermeneau, qui était président du CNEF à l'époque, d'une commission nationale du CNEF, Conseil national des évangéliques de France, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc une commission spéciale des relations avec le peuple juif. Donc ça, c'est au niveau national. Et puis en passant par la réflexion théologique et historique sur les interactions souvent malheureuses entre l'Église et le peuple juif dans l'histoire. Je partageais avec des frères récemment que souvent, nous évangéliques, on a un peu de mal à réfléchir à ces choses-là parce qu'on vient souvent d'un milieu extérieur, sauf si on est de famille évangélique, mais... Et on tombe dans la Bible comme ça, tout cru, on reçoit le Saint-Esprit, on est rempli, etc. Et en fait, on chante presque 2000 ans d'histoire, finalement. On est dans une Bible, on vit l'époque des actes, on a l'impression, et je crois que c'est juste, de vivre encore l'époque des actes, mais on n'a pas été formé, on parle peu de ce qui s'est passé dans les 2000 ans, parce qu'on n'est pas une génération spontanée. On est le fruit, un peu comme disait Mathieu, de bonnes choses qui nous ont précédés, mais aussi de toute une histoire de l'Église. Le message que je vous partage ce matin, donc ce sera en rapport avec ce domaine. Alors, ce n'est pas un message classique pour un dimanche matin, ce n'est pas une exhortation, un encouragement ou des choses comme ça. J'espère que vous ne sortirez pas découragé quand même, mais je crois que ça pourra contribuer à notre éclairage. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête quelque part et dans notre cœur aussi. Et ce domaine des relations avec le peuple juif, ça me semble important parce que c'est le peuple dont il est question dans chaque page de nos Bibles. À chaque fois que tu ouvres une page de la Bible, il est question d'Israël. Et en tout cas, ça a été écrit par un juif. Et donc c'est quelque chose qui est si proche de nous, mais parfois si loin dans nos pensées, dans notre façon de raisonner, de voir les choses. Et que ce soit le Nouveau comme l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament aussi. Hein. Quelque part, le Nouveau Testament n'a pas été écrit par des chrétiens, au sens propre. Il a été écrit par des juifs qui avaient rencontré Jésus, qui sont devenus, qu'on a appelés chrétiens par la suite, vous savez, à Antioche. Et ce peuple, il n'a pas fait que l'écrire, ce livre qui nous est si cher. Il l'a aussi conservé, envers et contre tout, et il a aussi, amen, partagé. Et c'est pour ça qu'on peut sortir nos Bibles, soit papier, soit électronique aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de fort. Donc nous sommes bénéficiaires de tout ça. Jésus a résumé ça en disant à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Alors je vous propose un petit voyage ce matin au cœur de l'Église. On prie un instant. Notre Père, merci pour ta présence, merci pour ton esprit qui est là vivant au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci parce que nous sommes un en Jésus. Tu nous as graciés, tu nous as sauvés en lui. Et nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir à nouveau ouvrir ta parole pour y lire des choses qui sont là depuis longtemps et que parfois on n'a pas déterrées, mais qui sont bien présentes et qui font partie de ton cœur. Alors Seigneur, ce matin je te prie que tu nous révèles ton cœur pour nous, ton cœur pour ton peuple d'Israël, au nom de Jésus. Amen. Ah oui, j'ai une petite zapette quelque part. Voilà, voyage au cœur de l'Église. Je vous propose un peu de parler ce matin, ça c'est un grand mot, de sociologie, en tout cas de l'ADN de l'Église que nous avons tellement à cœur. Alors, voilà, ça marche. Comme j'ai appuyé deux fois. Non, j'ai appuyé, c'est bon. Donc, je vous propose déjà de faire un petit parcours dans les actes. Ce matin, on va parler de Bible, des Écritures, et puis on va parler un petit peu d'histoire. On va commencer à lire dans Acte 2. Vous savez que l'Église a été créée, on dit souvent l'Église a été créée au moment de la Pentecôte. Et c'est juste, c'est là où, après la mort, la résurrection du Seigneur, son ascension auprès du Père, eh bien, l'Église est née le jour où le Saint-Esprit est descendu. Et là, cette équipe, ces quelques dizaines de personnes qui étaient dans la chambre haute sont devenues l'Église, sont devenues cette Église qui va devenir conquérante. Alors, je vous lis. Je lis avec vous dans Acte 2. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et ils se disaient, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? On se souvient de cet événement incroyable de la Pentecôte, où il y a le don des langues et où l'évangile, les merveilles de Dieu sont dites dans toutes les langues alors qu'ils ne parlaient pas ces langues. Ils parlaient surtout l'hébreu, l'araméen, un peu le grec, sans doute certains, les érudits en tout cas. Et là, d'un seul coup, le miracle se produit et ils parlent dans toutes les langues. Alors certains commentateurs, certains théologiens, certains commentateurs disent, voilà, c'est là où l'Église, le message de l'évangile qui était réservé à un peuple, qui était né au sein d'un peuple, c'est là où l'évangile est né pour aller dans toutes les nations, etc. Et l'évangile est devenu universel. Et certains disent, voilà, l'universalité de l'Église, elle est née là. Alors c'est joli, c'est une image peut-être relativement juste, mais en fait c'est très anachronique. Parce que tous ceux qui sont là, même s'ils parlent des langues parce qu'ils viennent de régions diverses, ce sont tous des Juifs, c'est ce que le texte nous dit. L'évangile n'est pas devenu universel à ce moment-là. L'évangile reste dans le cadre juif. C'est la Pentecôte, vous savez, Pentecôte fait partie de ces trois fêtes de l'Éternel où les Juifs montent à Jérusalem pour adorer. Et ils montaient, ils venaient de toutes les régions de la Méditerranée, toutes ces régions qui ont été notées là, pour venir adorer l'Éternel. Et donc, ce n'est pas tout à fait là que l'Église devient universelle. Ce serait anachronique de le dire. Alors normalement, les choses auraient dû s'afficher petit à petit, mais ce n'est pas grave, tout va se faire en même temps, ce n'est pas grave. Donc je voulais simplement On va lire là où c'est noté si on résume l'histoire. Parce que si on résume l'histoire de la Bible, on parle d'Isaac, d'Abraham d'abord, d'Isaac, de Jacob, qui sont tous des Hébreux. On parle de Moïse et du peuple d'Israël qui sont des Hébreux. Tous les prophètes, tous les rois sont Hébreux. Jésus est juif, les apôtres sont juifs, la Bible, comme j'ai dit, Ancien et Nouveau Testament est juive, et la première communauté qui croit en Jésus est juive. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une affaire de famille, une affaire encore presque ethnique. Ainsi, on peut dire que l'ADN de l'Église est 100% juif, et l'Église telle qu'elle, elle se serait suffie à elle-même finalement. Mais Dieu avait un autre plan, il avait envie d'élargir la vision. Alors j'ai fait cette flèche avec les dates, qui sont des dates de 30 à 40. La Pentecôte, c'était vers l'an 30. Et donc de l'an 30 à l'an 40, pendant 10 ans, l'Église va vivre après la Pentecôte cette vie que nous vivons aujourd'hui, mais entre juifs uniquement. Et ça, c'est intéressant de simplement de l'avoir en tête quelque part. Parce que 10 ans, ça peut paraître court. Mais quand on sait ce que Jésus avait dit aux apôtres, vous allez dans toutes les nations, etc., etc., 10 ans, c'est long. Cette église, elle n'a pas 10 ans. Et regardez tout ce qui a été fait déjà. 10 ans, une première année, on reste entre juifs. Une deuxième année, l'église est juive. Une troisième année, l'église est juive. Une cinquième, quatrième, sixième, dixième année, l'église, elle est au sein du peuple d'Israël. Et à l'époque, on peut imaginer pendant ces 10 années où l'Église est devenue grande, on va en reparler, au sein de Jérusalem, au sein de la Judée, de la Samarie, etc. Et j'aime bien ce verset de Actes 9, 31, qui nous dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. En fait, l'Église, il y a des milliers de croyants juifs qui sont là, en Judée, en Samarie, en Galilée. Et l'Église, à part certains moments de persécution, il y aura la mort d'Étienne, etc., l'Église, globalement, vit en paix au sein du peuple juif. C'est un peu comme si cette communauté nouvelle qui était née, eh bien, elle vivait au sein des autres communautés d'Israël. Parce qu'Israël, à l'époque, n'était pas uniforme. Il y avait différents courants, différents mouvements. Il y avait les pharisiens, qu'on connaît bien. Il y avait les sadducéens. Il y avait les zélotes, qui étaient un petit peu plus les politiques de l'histoire. Il y avait toutes sortes de courants. Il y avait les esséniens, qu'on ne connaît pas bien, nous, parce qu'ils ne sont pas dans la Bible, mais qui étaient aussi une partie du peuple d'Israël. Ces gens qui se sont mis à part près des grottes de Qumran, vous savez, près de la mer Morte. C'était une communauté d'Israël qui vivait là, qui n'était pas du tout d'accord avec ce qui se passait à Jérusalem, qui trouvait que les Sadducéens étaient complètement compromis par une philosophie grecque qu'ils avaient gardée de l'histoire d'un petit peu avant, de 150 ans avant. Et puis surtout, ils étaient compromis avec les Romains. Donc les Sadducéens n'étaient pas du tout appréciés, etc. Donc Israël, c'était un peu cette multitude de différents courants, de différents mouvements. Et ben, l'Église, les suiveurs de Jésus, ça s'insère un petit peu dans ce mouvement-là, et l'Église est en paix. Alors il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Non, Jésus n'est pas le Messie. Mais finalement, ils trouvent leur place, on va le voir. Là où il se passe quelque chose, c'est, on le sait, dans Acte 10. Dans Acte 10, je vous caricature l'histoire. Hein. Pierre, par une révélation, est appelé chez Corneille, un non-juif, un ami des juifs, mais un non-juif, qui lui-même a eu une révélation, etc. Il y a la rencontre, et puis au moment où Pierre se met à prêcher l'évangile à Corneille, de nouveau le Saint-Esprit tombe, comme 10 ans auparavant. Comme il était tombé dans la chambre haute, il tombe dans cette maison d'un païen. Et là, l'évangile commence à toucher les païens et à commencer à amorcer cette diffusion qui va aller dans le monde entier par la suite jusqu'à Montélimar et Grenoble et au-delà, à tous les endroits où le Seigneur vous enverra. Mais alors ça se passe quand même pas si bien que ça, parce que attends, Pierre, tu rentres chez un païen, bon ok, si tu manges pas trop avec eux, si tu manges pas n'importe quoi avec eux, tout ça, ça passe, mais quand même, il rentre à Jérusalem, et là, on lui a préparé une drôle de surprise quand même. Hein, les apôtres et les frères qui étaient, acte 11, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée, apprirent que les païens avaient reçu la parole de Dieu. Et lorsque, donc on se dit, ils sont réjouis, alléluia, gloire à Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Des reproches. En disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre calme un peu le jeu. Attendez, attendez, je vous raconte. Et Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Eux, ils étaient prêts à ce que l'Église reste juive tout le temps. Ils n'avaient pas trop envie, finalement, malgré ce qu'avait dit Jésus, que l'Évangile se répande. On est bien entre nous. On est bien entre nous. Mais le Seigneur avait dit, non, il y a aussi dehors un peu. Et donc, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, ok, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Et donc, il y a toujours une seule Église, mais il y a maintenant deux cultures dans l'Église. Jusque-là, et c'est là où, c'était compliqué pour les Juifs d'entendre que des païens avaient accepté l'Évangile. Parce que jusque-là, il y avait une seule Église, une seule culture. On est entre nous, Juifs, Samaritains, tout ça, c'est un peu la même chose quand même si les Juifs aussi n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Les Samaritains, c'était quand même des circoncis, avaient la Torah, ils suivaient les fêtes de l'Éternel, etc. Donc on était un peu en famille quand même. Et donc il n'y avait qu'une culture. Mais là, à partir de Corneille et des autres qui rentrent, des non-juifs qui entrent dans le salut, eh bien, il y a toujours une seule Église, mais il y a deux cultures qui commencent à habiter. Et je l'ai mis sur la slide. Donc là, on est entre l'an 40 et jusque l'an 70 à 135. On va en reparler. Mais donc, pendant les 10 premières années, on a une Église juive. Et là, pendant les années qui suivent, de l'an 40 à l'an 70, 135, on se retrouve avec une église qui a deux cultures. Une église juive à Jérusalem, en Judée, en Samarie, en Galilée, et une église non juive qui va commencer à naître et à se développer. Donc, puis, une seule Église, c'est bien une seule communauté, mais avec deux cultures. Alors ça, c'est dans vos Bibles. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà réalisé, ce que je dis, parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, qu'est-ce qu'il nous raconte, là ? Mais vérifiez bien, ouvrez bien votre Bible dans Acte 15. dans Acte 15, je vous lis un résumé du chapitre. Hein. Quelques hommes venus de Judée enseignaient à Antioche, en disant, si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent un vif débat avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul et Barnabas, ils n'ont pas réussi à régler le dilemme à Antioche, donc ils décident d'envoyer Paul et Barnabas, qui montraient à Jérusalem vers les apôtres, pour traiter de la question. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Et c'était logique, quelque part. C'était logique parce que jusque-là, un seul peuple avait eu la révélation. Un seul peuple avait été sauvé par l'Évangile. Et donc, c'était bizarre de voir une église, les gens sauvés par le même sang, par la même grâce, mais avec deux cultures. Nous, on est circoncis, mais vous n'êtes pas circoncis. Nous, on suit la cache-route, on mange ce qu'on doit manger, et vous, mangez de tout, etc., etc. Donc, c'était une vraie question. La question était intéressante. Alors, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Le problème était réel. Pierre se leva et leur dit, « Mes frères, vous savez que Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche, sous-entendu chez Corneille, la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences non-juifs, des exigences que ni nous ni nos ancêtres n'avons été capables de remplir ? Nous croyons que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. » Donc Jacques qui était un des frères naturels de Jésus, qui était le responsable de l'église de Jérusalem, Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi, je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. » Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'église, décision unanime, de choisir parmi eux Jude et Silas, donc Jude, un des autres frères naturels de Jésus, Jude et Silas, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Et ils les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères avons décidé de choisir des délégués et de vous les envoyer. Ils vous annonceront qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. C'était quoi cette charge qui était imposée aux païens ? Ce n'était pas de se faire circoncire, c'était de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de la consommation du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela à Dieu. Donc ça semble réglé. Voilà. Les juifs continuent à être juifs. Les païens n'ont pas besoin de se faire juifs pour suivre l'évangile. Alléluia, tous les hommes disent Amen. Vous savez pourquoi ? Sinon, on ne ferait pas seulement le baptême, mais on ferait autre chose avec. Je préfère le baptême. Et donc, on reste dans cette église, dans les mêmes années, qui est une seule église, mais qui a toujours deux cultures. Et ça semble réglé. Sauf que si on lit un petit peu plus loin dans les actes, eh ben, ce n'est pas réglé vraiment quand même, du tout. Il va y avoir des rebondissements. Et là, on saute dans acte 21, dont je vous lis aussi un résumé. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Une petite remarque, c'est étonnant quand même. Cette rencontre à Éphèse avec les anciens d'Éphèse, Paul va leur dire « c'est la dernière fois que je vous vois ». Mais il se dépêche, donc il ne va même pas faire le détour, entrer dans la ville. Il convoque les anciens et il se voit en dehors de la ville. Pourquoi ? Parce que Paul tenait à être à la Pentecôte à Jérusalem. Pourquoi ? Ben parce que c'était sa tradition. Parce que l'an prochain, on monte à Jérusalem, les trois fois par an, toujours pareil. Donc Paul voulait être à Jérusalem pour Shavuot, pour la fête de la Pentecôte. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques. Logiquement, ben Paul, donc avec nous, il y a Luc qui écrit les actes, hein, et la petite équipe, ils vont chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, Paul a raconté ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire de Dieu. Paul raconte à Antioche, à Éphèse, à Smyrne, enfin tout ce qui se passe partout, c'est incroyable parmi les non-juifs. Et ils se sont mis donc à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit, tu vois frère, combien de milliers de juifs on compte parmi les croyants, et tous sont zélés pour la Torah, pour la loi. Or ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les juifs vivant parmi les non-juifs d'abandonner la loi de Moïse, tu leur dirais, de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, une foule se rassemblera, car on apprendra que tu es venu. Il va y avoir une manif. Donc là, Paul raconte tout ça, et il loue Dieu, gloire à Dieu, etc. Et puis ils lui disent, à leur tour, ben regarde-nous, Paul, ici, en Judée, à Jérusalem, tout ce qui se passe. Regarde combien de milliers de juifs ont cru Et ils sont tous zélés pour la Torah. Donc il y a bien ces deux cultures qui cohabitent. Ils continuent à être juifs, croyant en Jésus, et ils vivent ça complètement à Jérusalem. Mais certains ont entendu dire, par la rumeur, que Paul enseignerait aux juifs qui sont en diaspora qu'il ne faut pas circoncire les enfants, qu'il faut abandonner la loi de Moïse, etc. Et donc ils craignent une émeute, en fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, donc là, les disciples de Jérusalem autour de Jacques ? C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous ici, quatre hommes qui ont fait un vœu. C'est les vœux de Naziréa, hein, si vous vous souvenez de vos lectures de l'Ancien Testament. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification, selon la loi donc, avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Le vœu de Naziréa se faisait avec l'homme se raser la tête complètement. Ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant la Torah, la loi. Quant aux croyants d'origine non juive, on a déjà réglé la question. Nous leur avons communiqué par écrit notre décision, ils doivent juste s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Paul prit alors ces quatre hommes, se purifia avec eux et entra le lendemain dans le temple pour annoncer à quelle date la période de purification prendrait fin et l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Vers la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, donc au bout des sept jours, les Juifs d'Asie, donc là ce sont des Juifs qui sont montés pour Pentecôte, pour la fête de Shavuot, aussi à Jérusalem, mais qui ne sont pas des croyants en Jésus. Les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Malgré les précautions, il y a quand même la manif qui se produit. Ils criaient « Israélites, au secours ! Voici l'homme qui donne partout un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit, contre le temple. » Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple. Donc, il y a des Juifs qui font une émeute qui amène à l'arrestation de Paul, malgré les précautions, bien que c'était faux, c'était une rumeur que Jésus parlait contre le temple, contre la circoncision, contre les traditions de Moïse. Là, on est dans Acte 21. Acte 21, on est dans la dernière partie de l'Église des Actes et donc de l'histoire du Nouveau Testament, finalement. Et Acte 21, donc Paul va être arrêté, on le voit. Il va être emprisonné 3 ans dans le nord d'Israël, puis ensuite il va être exilé à Rome. Vous savez, c'est là où il dit qu'il en appelle à l'empereur, etc., qu'il est romain. Hein. Et donc, ça va être petit à petit la fin. Paul va être déporté à Rome. Il va continuer à enseigner dans une maison à Rome, mais on sait qu'il... Enfin, la tradition, la Bible ne nous le dit pas, mais la tradition nous dira qu'il est mort décapité. Et donc, on est à la fin du parcours, là, en fait, de l'histoire. Et on a toujours une église juive, une église non-juive. Mais il va y avoir une disparition de l'expression juive de l'Église en 135, vers 135, après 135. Donc là, on est en dehors de ce que la Bible nous dit, on rentre un petit peu dans l'histoire, c'est plus les historiens qui nous en parlent. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour qu'il y ait une disparition et que finalement, on se retrouve à terme avec une Église d'une culture uniquement non-juive ? Comme elle est globalement aujourd'hui. Avec des nuances, j'en parlerai tout à l'heure. Il s'est passé un événement quand même. Cette église juive, qui, avec des milliers de juifs, des dizaines de milliers sans doute, et bien plus, qui prospérait, etc. Quand on arrive dans ces dates-là, elle disparaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, suivez ce que je dis, puisque tout apparaît ensemble, hein. En fait, donc, si je résume, de 30 à 40, on a une église juive. De 40 à 70 et 135, on a cohabitation et vie d'une seule église, mais avec deux cultures. J'ai noté la fin des actes, là, vous voyez, au-dessus. Hein, c'est à peu près avant cette disparition. Quand les actes terminent, il y a toujours une double culture d'église. En 70, eh bien, c'est le jour de la destruction de Jérusalem. C'est l'année de la destruction de Jérusalem. Les Romains en ont ras-le-bol de ce peuple. Ce peuple toujours rebelle, ce peuple qui veut être lui-même, qui veut être autonome, qui veut se diriger lui-même, qui à chaque fois qu'on le conquiert arrive à se libérer. il y a un moment où l'empereur en a assez, et donc il se dit, bon, c'est assez intelligent ce qu'il se dit, le culte israélite, il est centré à Jérusalem, centré sur le temple. Si les Juifs ont plus de temple, c'est fini pour eux. Et donc, il va détruire Jérusalem. Et donc là, ce sont des dizaines de milliers de Juifs. Il y a des massacres terribles. Et là, ce sont des massacres des Juifs non croyants en Jésus et des Juifs croyants en Jésus. Et donc, déjà, il y a une partie de l'Église qui est décimée. Alors, on sait que certains avaient retenu la prophétie de Jésus qui disait « Quand vous verrez les armées autour de Jérusalem, fuyez dans les montagnes. » Donc, on sait que des chrétiens ont fui et des chrétiens juifs ont pu répandre un petit peu, ont pu continuer à exister en dehors de Jérusalem. Mais en 70, c'est la destruction du temple. Et c'est un gros coup pour la nation juive qui, effectivement, n'a plus son centre cultuel. Mais éradiquer le peuple juif, ça ne se fait pas comme ça. Il y en a qui s'y sont frottés. Et ils sont perdus et le peuple juif est toujours là. Ben là, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Peuple juif renaît de ses cendres. Jérusalem n'est plus là. Ben, ça fait rien, on continue. Il n'y a plus le temple. Et ben, on continue à adorer. On est dans les synagogues. On continue à adorer le Dieu unique. Et les chrétiens juifs continuent aussi leur culte. Et donc là, l'empereur va dire, bon, cette fois-ci, on va être un peu plus radical. On va détruire complètement, c'est en l'an 135, on va détruire complètement Israël. Toute la terre d'Israël va être détruite. Et donc, il y a une destruction de la nation. C'est là où Jérusalem va être rebaptisée. On n'appellera plus Jérusalem, Jérusalem, mais on l'appellera Aelia Capitolina. Et on n'appellera plus Israël, Israël, mais l'empereur la rebaptise en Palestine. Pourquoi Palestine ? D'où ça sort ce nom ? En fait, Palestine... Vous savez que l'hébreu fonctionne avec des racines, des lettres racines, des consonnes racines. Et en fait, si vous regardez les racines de Palestine, les consonnes, c'est la Philistie, c'est les Philistins. Et en fait, l'empereur, pour humilier au maximum les Juifs, va donner le nom de cette terre à Philistie, à la Palestine. Ce peuple philistin, là aussi, si vous vous souvenez de vos lectures de l'Ancien Testament, eh bien, c'est ce peuple qui était toujours en train de guerroyer contre Israël, etc. Et donc, c'était une bonne... Alors, le peuple philistin avait disparu, n'existait plus, mais l'empereur, quelque part, le ressuscite en disant « on va appeler ça Philistie, Palestine ». Et puis, donc, là, vraiment, l'église juive, on peut dire, l'église de les croyants de racines juives d'Israël, de Judée, tout ça, tout ce qui s'était structuré, qui fonctionnait, tout ça va être rasé et détruit. Et c'est là où il n'y a plus de deuxième culture, cette première culture plutôt d'origine. Et petit à petit, dans la diaspora, c'est-à-dire en dehors d'Israël, eh bien, les Juifs vont devenir très largement minoritaires dans l'Église, puisque, gloire à Dieu, l'Évangile se répand, il y a des milliers, des centaines de milliers de païens qui viennent à l'Évangile. Et donc, les Juifs de diaspora vont être complètement assimilés au sein de l'Église des non-Juifs. Alors ça, je le fais rapidement parce que c'est plus à la limite pour les spécialistes ou les gens que ça intéresse, mais c'est juste pour nous mettre en perspective, parce que là, maintenant, depuis l'an 135, jusqu'à aujourd'hui, on est dans une église de culture qui n'est pas de culture juive. Et juste pour mettre en perspective, les conciles, en fait, c'est les grandes réunions de tous les évêques qui ont décidé des dogmes chrétiens. Et juste pour nous mettre en perspective, c'est intéressant de voir que les conciles de Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine ont lieu, regardez les années, hein, Nicée, c'est 300 ans après la mort de Jésus. C'est là où on va commencer les dogmes chrétiens à les formuler avec toutes sortes de dogmes, vous pourrez regarder. Il y en a surtout un que nous, on ne suit pas, celui d'Éphèse, hein, qui déclare Marie mère de Dieu. C'est à Éphèse, là, en 431. Donc ça ne fait pas partie de notre culture évangélique protestante. Mais sinon, beaucoup de choses, oui. Et donc, les vérités de l'Évangile vont être exprimés avec des concepts et des termes philosophiques grecs. Ça, c'est intéressant de voir aussi que c'est vraiment une culture différente qui s'installe. C'est toujours le même évangile, c'est la bonne nouvelle du Seigneur, mais avec un contexte culturel différent. Et avec progressivement, et parfois avec violence, une élimination des éléments juifs de la foi. Donc, mais je passe rapidement, ce serait à creuser dans c'est un autre sujet. Alors, hier et aujourd'hui, l'Église. Donc je reprends ma flèche pour l'échelle du temps. On est après 135, donc il y a tout ce qui se passe dans l'histoire de l'Église. On arrive au Moyen-Âge, avec là justement une opposition de l'Église majeure au peuple juif, avec notamment l'Inquisition, et puis après une opposition, vous savez que cette théologie, la théologie du remplacement, c'est l'Église qui a remplacé Israël, et puis aussi cette théologie du peuple déicide, qui était répétée tous les ans par les chrétiens à Pâques, et donc une hostilité qui va malheureusement pouvoir permettre à la Shoah de s'installer à la dernière guerre. Alors j'ai mis Inquisition et Shoah entre parenthèses, parce qu'il ne faut pas résumer l'Église de toutes ces années-là, de ces siècles-là, à l'Inquisition et à la Shoah. Loin de là, l'Évangile est prêché. Les gens se convertissent, il y a des gens sauvés et l'Évangile est annoncé, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais au niveau culturel, ça bloque complètement, complètement. Il y a des décrets de l'Église interdisant d'aller dans les synagogues, interdisant, d'ailleurs c'est dans les premiers conciles, qu'on va changer la date de Pâques. Non, il faudra plus, c'est pour ça que maintenant les dates de Pâques, etc., ne coïncident plus toujours, pas tous les ans, avec les dates de Pessah, de la Pâque juive. Parce qu'il fallait vraiment se séparer de ce peuple rebelle, de ce peuple que Dieu avait abandonné. Alors, je vais un peu plus loin, et il y a la flèche qui parle d'après 1850 jusqu'à 2023. Vers 1850, dans ces années-là, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Le peuple, vous savez, tous les ans à Pâques, à Pessah, pendant la cérémonie de Pâques, répète l'an prochain à Jérusalem. Parce que même si on les a mis dehors en 135, pendant tous ces siècles, tous les ans, ils ont répété l'an prochain à Jérusalem. On y retournera. On y retournera. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui nous y a mis. On y retournera à Jérusalem et dans ce pays. Et vers 1850, c'est d'ailleurs après... merci, un trou de mémoire. Le militaire français qui a été... Dreyfus. Après l'affaire Dreyfus, donc ça naît un petit peu en France, toujours intéressant de s'en souvenir. Après l'affaire Dreyfus, il y avait un journaliste juif qui suivait l'affaire et qui s'est dit non mais là, c'est plus possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et l'idée du sionisme va naître. Donc pas l'idée de retourner à Jérusalem, ça il l'avait toujours, mais l'idée de travailler à reconstruire une nation pour s'implanter de nouveau sur la terre de leurs ancêtres. Et il y a l'apparition du sionisme. De façon complètement séparée, mais intéressante aussi, dans les mêmes années, il va y avoir le début de réapparition d'une église juive. Vous savez, cette église qui n'existe plus depuis des siècles, qui depuis l'an 135 avait été rayée de la carte. Tous les juifs qui venaient à l'évangile quittaient le peuple juif, rentraient dans l'église, et puis devenaient des chrétiens comme les autres, des chrétiens païens, j'allais dire, comme les autres. Leur culture, leur identité juive était complètement rayée. Et là, à cette même période, donc complètement indépendamment du sionisme, le sionisme, c'est le retour à la terre, eh bien là, il y a des gens juifs, croyants en Jésus, chrétiens, qui se disent non, mais c'est pas juste. Nous sommes juifs et on le reste, même si on croit en Jésus, et vont naître, alors je vais faire un petit anachronisme dans le vocabulaire, mais va renaître le mouvement messianique, ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement messianique. Des juifs vont commencer à se réunir et à dire « Mais regarde, c'est la parole de Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé de perdre notre culture. Dieu ne nous a jamais demandé d'être loin de notre peuple et de quitter notre peuple. » Et les premières communautés, à l'époque c'était en Angleterre, puis aux États-Unis, les premières communautés de juifs messianiques, qu'on appelait à l'époque les chrétiens hébreux, vont commencer à se réunir et puis à faire des recherches sur c'est quoi en fait, qu'est-ce que ça veut dire être juif croyant en Jésus. En 1947, et surtout 48, eh bien, il y a l'aboutissement. Il y a la recréation de l'État d'Israël. La Shoah est passée par là. Il y a la recréation de l'État d'Israël. Et comme par hasard, c'est dans ces mêmes années-là, 1947, qu'on va redécouvrir les manuscrits de la Mer Morte. Et ça, c'est un événement exceptionnel. Parce que jusque-là, même parmi les chrétiens libéraux, disaient, ouais, mais la Bible, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Ça a été une traduction, puis une traduction de traduction, puis de la recopie. Même chez les chrétiens, il y avait parfois en doute, chez les chrétiens libéraux, cette fiabilité de la Bible, des Écritures. Et comme par hasard, au moment où Israël renaît sur sa terre, eh bien on découvre les manuscrits de la Mer Morte, ces manuscrits qui avaient été cachés par les Esséniens au moment de la destruction de l'État d'Israël, là au moment où ils ont tous été détruits, les Esséniens avaient caché les rouleaux de la Bible, des Écritures. Et donc on a redécouvert ça et on a vu qu'en même temps qu'Israël renaissait, la fiabilité des Écritures était confirmée et renaissait en même temps. C'est assez drôle de voir dans l'histoire ces deux phénomènes des années 1850 et 1940, fin des années 40, avec ces deux renaissances qui vont de pair. Au moment où Israël renaît, l'Église juive renaît. Ma dernière slide, c'est... Alors jusque-là, ce que j'ai partagé, c'est l'écriture et c'est les historiens. Donc c'est les faits, simplement. Là, j'arrive à mes conclusions et ce qui fait un peu l'objet de mon travail et de mes réflexions, et je ne suis pas seul, bien sûr, là-dedans. D'abord, les constats. Tout ça me montre que Dieu n'en a pas fini avec le peuple juif. Dieu n'en a pas fini avec Israël et avec l'Église, et Dieu n'en a pas fini avec les relations entre Israël et l'Église. L'autre constat, c'est qu'il y a des choses à redécouvrir, à réinventer. Et c'est ce qui se passe depuis un siècle et demi, disons. Il y a tout un travail qui se fait. Maintenant, ce n'est plus pour vous, je pense, un mystère de savoir qu'il y a des juifs messianiques. On ne sait peut-être pas toujours ce que c'est, mais on sait que ça existe. Juste ce qui est intéressant, que j'ai oublié de dire, c'est ma conclusion, hein, c'est la dernière slide. Ce que je trouve intéressant, il y a eu des statistiques qui ont été faites, c'est que l'année de la recréation de l'État d'Israël, en 1948, le nombre de juifs croyant en Jésus qui étaient en Israël a été compté. Vous savez combien c'était ? 11. Il y avait 11 juifs croyant en Jésus, identifiés en tant que juifs croyant en Jésus chrétien. Aujourd'hui, 75 ans après la création, il y a des dizaines d'églises messianiques en Israël. Dans toutes les villes, il y a des communautés messianiques, il y a des juifs qui croient en Jésus et qui vivent. Et donc, en même temps qu'il renaît, vous savez qu'en 135, l'État d'Israël avait été détruit et l'Église juive, entre guillemets, avait été détruite. Et en 48, et dans ces années qui sont en train de se passer, Israël est renaît, et l'Église juive est en train de renaître aussi, cette culture. C'est assez extraordinaire quand même. Alors c'est très disparate. Si vous allez chez des groupes messianiques, vous allez en avoir qui sont, certaines églises juives en Israël, sont exactement comme la nôtre, comme la vôtre. Il n'y a pratiquement aucune différence. Il y a peut-être un chandelier à cette branche, mais il y a très peu. Et puis, il y a tout un tas de couleurs.